Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Ici Radio Diwa, bonjour. C'est pour l'interview qui sera écoutable en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous recevons du monde pour cette 25e festivité de la transhumance 2015. Autour des micros, Nathalie Groulard pour la Fédération départementale Ovine.
Bonjour.
Ensuite, Marie Cabrol qui représente l'ADEME, donc Association départementale d'économie montagnarde. Stéphanie Dupraz.
Bonjour.
De l'Office de tourisme du Diwa. Et bien entendu, Harold David, directeur du Festival Est-Ouest, Théâtre de Die. Bonjour alors à tous.
Bonjour.
Alors, qui veut bien nous présenter aujourd'hui globalement, cette 25e festivité de la transhumance, Harold peut-être ?
Oui, je vais commencer pour lancer les pistes. Donc c'est effectivement la 25e édition de la fête de la transhumance qui a été créée en 1991 par André Pitt, comme beaucoup de Diwas le savent. Et d'ailleurs, à cette occasion, un hommage sera rendu à André Pitt le samedi 20 juin à 15h30 devant l'Office de tourisme, puisque devant l'Office de tourisme a été installée donc la fameuse brebis à la valise, donc qui est une sculpture adaptée de la brebis dessinée par Fumur qui a composé les premières affiches de la transhumance. Et donc une 25e édition qui a pour thème cette année le pastoralisme d'une génération à l'autre. Donc je laisserai le soin peut-être à Marie et à Nathalie de nous parler un peu plus de cette thématique, sachant que l'idée générale c'était de pouvoir à la fois montrer que le pastoralisme s'inscrit évidemment dans une tradition millénaire et en même temps est complètement inscrit dans la modernité, en tout cas dans la façon dont il est pratiqué aujourd'hui sur nos territoires. Voilà, et puis après, il y a trois jours de fête, donc 19, 20 et 21. Le 19, il y a des premiers rendez-vous qui ont lieu notamment au musée de Die et du Diwa, qui est un de nos partenaires principaux. Et puis ensuite, sur Die, la journée du samedi, qui est traditionnellement la journée la plus dense et la plus importante de la fête, notamment avec le temps fort qui est en fin de journée à 18h, le passage du troupeau dans les rues de Die, voilà, qui est toujours le clou de la journée, le moment attendu. Et en dehors de ce temps fort, plein d'autres rendez-vous sur lesquels on aura sans doute l'occasion de revenir, que ce soit des rendez-vous en lien avec le thème du pastoralisme d'une génération à l'autre, puisqu'il y a des conférences, du cinéma, du conte, des tables rondes, des échanges, discussions, enfin tout ça, c'est Marie qui va en parler plus précisément. Et puis des moments festifs avec de la musique, des spectacles de cirque dans les rues, de l'animation aussi musicale dans les rues, notamment avec la banda de la Città de Varallo, qui est donc la ville italienne jumelle de Die, et on accueille donc pendant toute la durée de la fête 40 musiciens italiens qui vont animer vraiment tous les différents temps de la fête. Ça c'est pour la journée du samedi. Et puis
Justement, je voulais t'arrêter là-dessus. Vous avez trouvé de quoi loger tous les musiciens?
Oui, ça y est, tous les musiciens italiens donc sont logés. Il n'y aura pas de SDF italien pendant ce week-end de la transhumance, et grâce à justement à une application des Diwa, à leur sens de l'hospitalité, tous ces Italiens donc vont être logés chez l'habitant à Die et dans le Diwa, selon la fameuse formule d'André Pitt qui était honneur aux étrangers. Voilà, ce sera de circonstance encore une fois pour cette fête. Et donc je terminerai par la journée du dimanche qui, parce qu'il ne faut pas oublier, on dit toujours la fête de la transhumance c'est à Die, mais non, la fête de la transhumance c'est de Die au Vercors, et donc la deuxième, troisième journée de la fête, le dimanche 21, aura lieu au col de Rousset, puisque en fait le troupeau, après avoir traversé la ville samedi, va s'arrêter à la Maison du Rocher à Chamaloc, pour tôt le matin du dimanche prendre la route des pâturages, c'est ça qu'on dit, hein, Marie ?
Mm-hmm.
Voilà. Et donc monter vers le col de Rousset pour arriver en milieu de matinée sur place. Et là, à nouveau, sur le col de Rousset, il y a plein d'animations qui sont proposées, avec évidemment la spécificité de aussi toute l'offre qui est faite par la station du col de Rousset, notamment la possibilité d'aller admirer les sublimes panoramas montagnards qui sont donc en haut du télésiège, et de passer la journée en compagnie du troupeau. Voilà, et donc là, il y a à la fois des animations musicales, il y a aussi à nouveau des conférences, des ateliers, des choses comme ça, et un grand marché de producteurs du territoire locaux, et donc un marché gourmand et artisanal. Voilà. En gros, les grandes lignes de cette édition, avec, je rajoute, deux temps forts le samedi, en dehors du passage du troupeau, qui sont toujours appréciés par le grand public, qui sont donc le repas des éleveurs le samedi midi, et puis le dîner de la transhumance le soir, pour lequel il est vivement conseillé de réserver. Voilà.
Merci Harold. Alors je vais me tourner maintenant vers Nathalie Croulard. Bonjour, rebonjour. Et donc vous représentez la Fédération départementale Ouvine. C'est un groupement qui gère combien de personnes, hein, cette structure?
Alors en fait donc la fédération, c'est un regroupement de syndicats locaux de la Drôme. Donc il y a 7 syndicats et ça représente à peu près 180 éleveurs. Donc là, l'implication de la FDO dans la fête de la transhumance, c'est vraiment de pouvoir faire se rencontrer les éleveurs et le grand public, et montrer au grand public comment fonctionne un élevage, quelles sont les problématiques des éleveurs, quelles sont la passion qui les anime dans leur métier, mais aussi de faire découvrir les produits au travers des dégustations. Parce que sur le stand de la FDO, donc, on a dégustation d'agneaux, mais aussi de produits dérivés, comme des terrines, etc. Donc voilà, c'est vrai que la FDO a toujours été un partenaire très impliqué dans la fête de la transhumance.
Même plus qu'un partenaire, puisqu'elle l'a quand même portée et organisée avant
l'association
FESTF de 10 s'en occupe pendant 8 ans, je crois, à peu près.
Au fur et à mesure des années passant, est-ce que vous constatez un intérêt grandissant du public pour cette festival de la transhumance que moi-même j'ai trouvé justement prendre de l'importance depuis quelques années?
Alors au fil des années, j'aurais peut-être un peu mal à me positionner parce que je suis arrivée dans la région il y a peu de temps. Mais effectivement, on a vu quand même que l'an dernier, il y avait eu une étude de fait sur la fréquentation des gens sur le site du festival. Et a priori, il y a eu quand même une grande fréquentation. Donc je pense que oui, ça commence à passer auprès du grand public. De plus en plus, il est sensibilisé à ces problématiques.
Je me souviens l'année dernière avoir interviewé une personne qui fédérait justement la formation professionnelle des bergers. Et il me disait que c'était en croissance. Effectivement, il y avait une demande accrue à vouloir exercer ce métier. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que vous êtes dans ce secteur-là par rapport au professionnalisme concernant le pâturage?
Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a une baisse des installations dans notre secteur, mais pourtant il y a quand même des installations. Et même si on a l'impression que les jeunes sont de moins en moins attirés par le métier, je pense que justement il faut encourager ceux qui s'installent. Et donc effectivement, que ce soit dans les filières ovines ou bovines, il y a toujours des difficultés au début, surtout quand on part de rien. Mais heureusement, il y a tous les organismes professionnels qui accompagnent ces jeunes. Et je pense que c'est des bonnes volontés qu'il faut pas laisser tomber.
Et vous vous en donnez les moyens?
Oui, on s'en donne les moyens, mais je pense que le plus important pour s'en donner les moyens, c'est que tous ces organismes travaillent ensemble. Parce qu'il y a la chambre d'agriculture qui est impliquée, effectivement, il y a les syndicats, il y a les coopératives, mais le plus important, c'est que tout ce petit monde travaille ensemble et pas simplement dans son coin. Donc je pense que le plus important aujourd'hui pour encourager ces installations et l'attractivité du métier, c'est le travail en commun.
Marie Cabrol, ensuite, vous êtes dans l'ADEME, Association départementale pour l'économie montagnarde. Alors ça regroupe quoi cette association exactement?
Alors l'ADEME en deux mots c'est le service pastoral de la Drôme, hein, donc on travaille à l'échelle départementale. Donc on est une association dont le conseil d'administration est composé d'une trentaine de structures diversifiées, c'est-à-dire que nous on n'est pas une association de professionnels éleveurs, on est vraiment une association qui regroupe à la fois des forestiers avec l'ONF, le CRPF, des chasseurs avec la fédération départementale de la chasse, on a tous les syndicats agricoles tous bords confondus. On a le Crédit Agricole, le CFPPA, vraiment on est une association qui à l'origine s'occupait de l'économie montagnarde et très vite s'est tournée vers le pastoralisme parce que le pastoralisme est un petit peu à l'interface de l'économie de montagne. Donc notre mission principale c'est d'accompagner le pastoralisme collectif dans la Drôme, c'est-à-dire les 60 groupements pastoraux. Donc des groupements pastoraux, c'est des groupements d'éleveurs qui vont transhumer en alpage ensemble et qui vont, ou pas d'ailleurs, mais qui vont mutualiser leurs moyens pour gérer les estives et les parcours. Voilà, c'est-à-dire qu'un groupement pastoral, comme il peut y en avoir sur Fondure, Lambelle ou le Jocou ou Jaboui, ce sont des groupements qui vont pouvoir employer ensemble un berger, payer ensemble une montagne, la location je veux dire, aménager ensemble les montagnes avec en investissant dans des cabanes, des clôtures, des systèmes d'abreuvement des troupeaux, etc. Voilà. Donc l'ADEME accompagne les groupements pastoraux dans leur vie collective. Et les communes aussi qui peuvent être propriétaires de pâturages et donc on va les aider, les accompagner sur les contrats de location qu'ils peuvent avoir avec les groupements. On va accompagner les collectivités territoriales et voilà, on va mettre en œuvre en fait la politique régionale des plans pastoraux territoriaux qui consiste à soutenir le pastoralisme sur la région et sur nos petits territoires pastoraux drômois. Voilà, donc ça c'est notre mission principale. Ensuite, on a des petites particularités, des petites spécificités où on va travailler sur la formation de bergers, justement. Une formation itinérante, berger-vacher, qui s'organise avec deux autres services pastoraux de Savoie et d'Isère et les CFPPA. Et donc chaque année, on va former entre... 10 et 15 bergers. Voilà, une formation itinérante avec à la fois une partie en salle et des parties en stage pour que les bergers testent un petit peu leur motivation et leurs compétences sur le terrain, en alpage ou sur parcours ou en élevage. Voilà. Ensuite, on a une partie communication dans nos missions et c'est à ce titre-là notamment qu'on travaille avec... le Festival Est-Ouest et tous les autres partenaires sur la fête de la transhumance. On y tient beaucoup, surtout depuis 2-3 ans, où on s'implique un petit peu plus parce que on est préoccupé par les messages pastoraux, que cette fête elle ne soit pas que juste un troupeau qui traverse la ville de Die, qui monte au Vercors. Nous, vraiment, ce dont on a envie, c'est vraiment de faire passer des messages auprès du grand public, parce qu'on sait que indirectement, un public qui connaît mieux le pastoralisme et l'activité pastorale sera un public mieux informé et qui aura un comportement adapté sur des milieux pastoraux. Voilà. Les milieux pastoraux, ce sont des milieux avec une richesse biologique, de beaux paysages, des milieux qui sont fréquentés par le randonneur. Et qui, aujourd'hui, dans un contexte où la prédation fait pression sur le pâturage, on a avec les patous des conflits d'usage sur ces pâturages
Et donc, on tient à ce que, il y ait une vraie information sur, sur ce que c'est que l'activité pastorale et son rôle dans l'économie locale, son rôle socialement, son rôle au niveau culturel, au niveau environnemental, de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on tient à travailler dans la fête de la transhumance.
Si je peux intervenir, je trouve que c'est essentiel qu'il y ait ces collaborations et cette implication des structures professionnelles comme la FDO et l'ADEME, parce que organiser tout seul, nous, la fête de la transhumance, on saurait faire sur un aspect, voilà, on va dire,
culturel,
festif, etc. Mais par contre, sur cette notion de messages pastoraux que tu as évoqué, qui est essentielle, qui, de mon point de vue, donne tout son sens à cet événement et sa spécificité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une juste dans une fête populaire, même si bien entendu cette dimension-là est essentielle à la réussite de l'événement, mais vraiment dans un outil au service du développement du pastoralisme et de l'élevage, et comme un élément structurant aussi de cette profession, parmi évidemment tous les autres outils qui sont mis en place, que ce soit par la FDO, l'ADEME ou toutes les autres institutions impliquées dans cet accompagnement de ces métiers et de cette profession. Mais c'est essentiel de mon point de vue, parce que nous, on est incapable de... Voilà, c'est pas notre métier, pour le coup, de porter ce type de message-là. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la singularité de l'événement, qui attire, mais peut-être Stéphanie pourra en dire aussi quelques mots là-dessus, le grand public, c'est-à-dire qu'il y trouve à la fois des ingrédients qui vont satisfaire son côté fête populaire, le côté un peu spectaculaire avec le troupeau qui passe, etc. Et puis en même temps, intellectuellement, culturellement, il trouvait de quoi nourrir sa réflexion et son imaginaire et sa curiosité face à un univers qui est celui du pastoralisme, qui, je crois, fascine beaucoup le public. Enfin, il y a une espèce de mythologie comme ça qui est associée à cette profession, et que c'est bien que la fête permette aussi de montrer qu'on n'est pas juste dans le mythe, même s'il est peut-être fondateur pour cette profession, mais bien aussi dans la pratique d'un métier, avec tout ce que ça implique sur le plan, effectivement, comme tu le disais, économique, social et culturel. Et je trouve que c'est une des belles choses que moi j'ai découvertes, en tout cas en m'impliquant dans cet événement avec notre équipe, que de mettre autour de la table et dans un comité technique préparant l'événement toutes ces dimensions qui, du coup, enrichissent vraiment une offre singulière de propositions pour le tout public.
Harold, je voulais savoir, il y a un intérêt certain du public par rapport au pastoralisme et à la culture en même temps ?
Je pense que oui, parce que pour moi les deux sont pas dissociés, c'est-à-dire que comme le disait Marie, le pastoralisme c'est aussi un fait culturel, identitaire. Le pastoralisme est fondateur aussi de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment quelque chose qui est ancré de manière extrêmement forte dans l'ADN de l'histoire de l'humanité. Donc effectivement, je crois qu'il y a une vraie un vrai plaisir pour le public de pouvoir au sein d'une même journée aussi bien aller voir passer le troupeau en famille, etc., qu'à un moment encore une fois spectaculaire, et puis en même temps aller assister à une conférence sur la loi pastorale, comme ça va être le cas dans le programme cette année, qui va être un peu technique mais en même temps extrêmement riche et intéressante pour comprendre comment est géré justement sont gérés justement les espaces pastoraux et toutes les problématiques de comment tu appelais ça,
de cohabitation,
voilà, dans cet espace partagé qui est celui de la montagne, et en même temps de pouvoir aller écouter un groupe de musique et danser le soir, et puis en même temps déguster des fromages, des produits issus de l'agneau. Enfin voilà, tout ça constitue un tout qui attire manifestement le public, puisque comme le disait Nathalie, il y a une étude qui a été faite par le comité départemental de tourisme l'an dernier via une technique mise au point par Orange, le fournisseur de téléphonie, où avec les téléphones et les systèmes de signaux, etc., ils ont réussi à pouvoir faire une étude assez fine du type de population qui est présent pendant la fête et de son nombre. En extrapolant, enfin voilà, toute une dimension statistique de la chose, mais en gros, pour synthétiser cette étude, sur le week-end de la transhumance, il y a à peu près 30 000 personnes qui sont présentes sur le territoire, dont, si on compare au week-end qui précède, au week-end qui suit la fête de la transhumance, 10 000 personnes supplémentaires par rapport à l'occupation habituelle. Donc, effectivement, on peut dire que la fête de la transhumance attire 10 000 personnes supplémentaires sur le territoire, ce qui, à notre échelle, puisque 10 000 personnes, c'est le bassin de population du Diwa, est tout à fait loin d'être négligeable. Et aussi avec une diversité dans les publics qui est intéressante d'un point de vue touristique. Mais là, je laisserai Stéphanie en parler peut-être.
Oui, effectivement, et pour compléter ce que tu disais, la tendance depuis quelques années de la clientèle, puisque c'est bien une clientèle, elle est bien, ce qu'on vient de dire, d'avoir du contenu, non seulement d'avoir du côté festif, d'avoir du troupeau, mais d'avoir du contenu intellectuel, culturel. Et effectivement, la clientèle est de plus en plus demandeuse de ce contenu. Le mythe de l'alpage reste toujours pertinent. Le berger, c'est un héros aujourd'hui, mais dans l'esprit des gens, le berger à l'ancienne, il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est très important pour nous d'essayer de leur faire comprendre, de leur amener des éléments pour qu'ils comprennent que le berger aujourd'hui, il a des contraintes économiques, comme disait Marie, il a des contraintes sociales, il a des contraintes de cohabitation avec le randonneur, avec le VTTiste, avec tout ce qu'on veut. Et tout ça, c'est vrai que la fête de la transhumance, c'est un bel exemple de cette collaboration. Moi, je suis très fière d'avoir participé pendant quelques années à cette fête, où on a sur l'ensemble du territoire tous les acteurs économiques d'importance, l'agricole, le tourisme, le culturel, qui se sont associés pour essayer de parler à la clientèle de ce qu'est notre territoire. Et donc ça, c'est, pour moi, c'est un bel exemple de réussite. Concernant la clientèle touristique, elle est demandeuse. Aujourd'hui, le Diwa est quasi plein au niveau hébergement pour samedi soir. Il y a encore quelques places. N'hésitez pas à téléphoner à l'office de tourisme. On a encore de quoi loger quelques centaines de personnes. Pas des milliers, mais des centaines. On devrait y arriver. Et puis voilà, que la fête soit belle et qu'on en profite tous encore cette année. N'hésitez pas non plus, effectivement, la fête c'est dit, mais c'est aussi la fête au col de Rousset le dimanche. Et c'est tout un autre univers que d'être au col de Rousset. Enfin Marie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. On a le troupeau qui arrive du col naturel, c'est assez impressionnant à voir. Et ça mérite de faire les deux jours, en fait, de suivre le troupeau. Pardon, la fête sur les deux jours.
Par rapport à ces festivités le samedi et dimanche, mais particulièrement le samedi, est-ce qu'en retour, au niveau d'Iwa, il y a une retombée économique?
Évidemment.
Par rapport au commerce, habituellement.
Évidemment.
Donc, très bonne réception et perception de ce festival de la transhumance.
C'est le plus gros événement du territoire. De toute l'année, depuis une dizaine d'années, c'est le plus gros événement du territoire. Comme disait Harold, ça génère 10 000 personnes supplémentaires quand on compare les week-ends. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'ensemble du territoire d'Iwa, on a 10 000 lits marchands. C'est-à-dire qu'on a 10 000 lits qui sont ouverts à la location, que ce soit les hôtels, les campings, les chambres d'hôtes, etc. Donc la fête permet de remplir l'intégralité de ces 10 000 lits, 10 000 lits sur 52 communes. Ça retombe évidemment sur 10, mais ça retombe essentiellement aussi sur l'ensemble du territoire d'Iwa. Économiquement, les commerçants, le premier commerçant qui vient se plaindre de la fête de la transhumance, je pense qu'il n'est pas tout à fait honnête avec lui-même.
Les objectifs de cette fête, ils peuvent paraître, quand on les regarde de loin et qu'on n'est impliqué dans l'organisation, contradictoire. Mais souvent, j'ai ce retour-là qui m'est fait. Mmh. Et en même temps, je pense que c'est une manière... partiel de voir les choses et d'analyser les choses, parce qu'en fait, au fond, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer sur la transhumance, sur le pastoralisme, etc., ce dont il est question et que tu as commencé à amorcer, c'est comment on fait pour rendre un territoire attractif, le rendre vivant et faire en sorte qu'il continue à être un lieu de destination pour des populations qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, je crois que d'ailleurs, sur le plan de l'analyse économique du territoire, la première ressource de ce territoire reste pour l'instant le tourisme. Oui. Donc, par conséquent, la question que nos politiques peuvent légitimement se poser, et les acteurs que nous sommes aussi, c'est comment on fait pour développer cette ressource, vu qu'on n'a pas d'industrie, que, etc. etc. Enfin, voilà, et que donc, du coup, la fête de la transhumance, comme d'autres événements, elle s'inscrit dans une logique d'attractivité du territoire, de valorisation du territoire, et afin de faire en sorte qu'effectivement, celui-ci reste vivant, il permette à des commerces, une activité touristique, etc., de rester vivace et vivant tout au long de l'année, et pas seulement pendant la saison touristique. Et par ailleurs, effectivement, sans que les moutons, entre guillemets, soient un prétexte pour du tourisme, tout se sert mutuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antagonisme, de mon point de vue, entre les intérêts de la FDO, les intérêts de l'ADEME, des intérêts touristiques, des intérêts économiques ou des intérêts culturels. Et c'est bien pour ça que on peut tous travailler ensemble, parce que au final, c'est voilà, l'attractivité d'un territoire qui est en jeu. Il y a un vecteur possible qui est effectivement cette mise en valeur d'une des richesses spécifiques de ce territoire, qui est l'élevage et le pastoralisme.
Et il y aura un débat au sein de cette transhumance, c'est le loup. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça?
Alors moi, j'ai rien à dire sur la question du loup, parce que je ne suis absolument pas légitime pour le faire, mais par contre,
dans l'inconscient des enfants et des adultes, le loup, ça représente quand même quelque chose d'attractif aussi, quelque part.
Oui, oui, c'est le paradoxe du loup. Moi, je laisserai Nathalie s'exprimer là-dessus. Je vais juste... moi, exprimer le positionnement de la fête, enfin du comité technique par rapport à cette problématique de la prédation et du loup. Depuis le début, moi j'ai toujours dit que c'était aux éleveurs et à la profession de s'emparer de cette problématique, qu'aucun d'entre nous n'avait légitimité pour pouvoir évoquer cette question. C'est une problématique extrêmement complexe et
sensible,
voilà. Qui plus est dans un contexte là immédiat, d'après ce que j'ai eu comme information, qui fait que voilà, il y a une exacerbation, on va dire, de la sensibilité par rapport à ça. Mais donc le positionnement du comité technique, c'est que à partir du moment où effectivement les éleveurs notamment souhaitent pouvoir communiquer sur ce sujet qui est un des sujets quand même importants, mais pas exclusifs, de leurs préoccupations. Évidemment, on se doit de trouver un espace pour ce faire. Alors, je profite qu'on soit sur l'antenne d'Erdivois pour dire que grâce à notre partenariat avec Erdivois, eh bien justement, cet espace a été rendu possible, et que donc, samedi matin,
à 10h,
voilà, sur le stand des studios mobiles d'Erdivois, qui sera place du Mazel, eh bien, il y aura un temps de conférence de presse porté par la Fédération nationale ovine, et suivi d'un échange avec le public et les élus et éleveurs qui seront présents ou qui voudront bien être présents à ce temps d'échange. Voilà, mais je trouve ça très important, et je me réjouis que effectivement, même tardivement, les éleveurs se soient mobilisés sur cette question pour en parler, parce que c'est eux qui peuvent apporter le témoignage le plus objectif, peut-être pas, mais en tout cas le plus vivant et précis sur la chose, et témoigner en tout cas de leur réalité face à cette problématique-là, et de la confronter du coup au regard d'autres qui peuvent voir ou envisager la problématique de la prédation différemment évidemment du point de vue d'un éleveur. Mais c'est à ça que sert la fête aussi, c'est de pouvoir être un espace de débat, d'échange et peut-être de construction. Je ne pense pas que c'est la fête de la transhumance qui va résoudre la problématique de la prédation, mais en tout cas, que ce soit un lieu pour en parler, évidemment.
C'est un combat de longue haleine qui dans la région a lieu depuis une bonne vingtaine d'années a priori. Et c'est vrai que tout l'enjeu pour les éleveurs, c'est justement de sensibiliser le public et de pouvoir en parler. Parce que quand on en parle avec eux, souvent leur réaction, c'est de dire bah, c'est pas toujours facile d'en parler et de s'exprimer sur ça. Parce que, comme disait Marie, c'est un sujet qui est très très sensible. Et souvent, les éleveurs, ils ont du mal à s'exprimer parce que ça, comment dire, c'est des sujets qui prennent aux tripes, qui touchent beaucoup. Et les éleveurs ne sont pas habitués à ce genre de discours. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir relayer ce message et de pouvoir expliquer simplement au grand public la problématique de la prédation. Et que voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, la prédation, ça va être, c'est un sujet qui est très très important en ce moment, justement parce que dans l'actualité, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc il y a eu notamment cet épisode dans les Alpes, là, dans le sud, en région PACA, avec deux jeunes qui se sont fait encercler par une meute. Alors bon, après, il y a eu beaucoup de problématiques là-dessus, enfin de polémiques, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça n'a pas été exagéré, etc. A priori, quand on entend le témoignage du jeune, c'est du vécu dont il parle. Et depuis le début de l'année, il y a eu plus d'attaques que l'an dernier. Le nombre d'attaques a augmenté, si on compare à la même époque l'an dernier. Ça a augmenté. Alors, la dernière fois que j'avais regardé, c'était au 31 mars, et il y avait eu une grosse attaque au mois de janvier qui avait fait que les chiffres avaient doublé ou triplé. Bon, après, je n'ai pas regardé ces dernières semaines, mais... C'est vrai que c'est une problématique qui, en plus, je pense, commence à rentrer dans les consciences auprès du grand public. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut pas relâcher la pression et continuer à en discuter simplement, non pas pour vouloir éradiquer le loup à tout prix. Je pense pas que ce soit le but des éleveurs, enfin pas de tous en tout cas. Le but, c'est de sensibiliser et de pouvoir cohabiter. Et ensuite, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est un sujet, et ça c'est tout nouveau aussi, depuis un an, on commence aussi à en parler a priori à l'Assemblée nationale. C'est un mot qui commence à être prononcé. Et ça c'est une grande victoire aussi pour nous, parce que ça commence à rentrer dans le débat. Même s'il n'y a rien on peut avoir l'impression que concrètement il n'y a rien qui avance, parce que c'est, comme je disais, c'est un combat de longue haleine qu'on fait petit pas par petit pas. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la pression et essayer d'être diplomate aussi envers le grand public.
Voilà. Juste pour avoir une idée, en 2014, c'était 9000 bêtes tuées sur les Alpes, quoi. Donc c'est ce qui représente peut-être une...
C'est pas l'échelle de la France, les 9000.
Ouais, mais bon, finalement, c'est...
Beaucoup aussi.
Beaucoup, oui,
beaucoup dans les Alpes.
Parce c'est que maintenant, le loup est dans le Jura et dans les Vosges, effectivement. Mm-hmm. On a plus l'habitude de parler des Alpes parce que c'est par là qu'il est revenu, mais voilà. Voilà, 9000 brebis, c'est... Si je ne me trompe pas, c'est plus de 20 troupeaux de 400 bêtes, quoi. Je veux dire, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc le loup, c'est vraiment une problématique actuelle et réelle pour les éleveurs. Après, la fête de la transhumance doit aussi porter d'autres messages.
Et faire oublier un peu ça, le temps d'un week-end.
Oublier, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, là, cette année, le thème, c'est... le pastoralisme d'une génération à l'autre. Du coup, j'ai envie d'enchaîner sur la programmation, à moins que Nathalie...
Vas-y, non, vas-y, c'est bon.
Mais voilà, bon, en ce qui concerne la programmation liée au pastoralisme et à ce thème-là, donc, ce qui est proposé, ce sont des visites du musée à deux voies. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment... quand je dis à deux voix, c'est avec les guides du musée, de Di et du Diwa, et l'ADEME. Donc il va y avoir vraiment un échange entre l'inscription du pastoralisme dans le passé, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à aujourd'hui, avec la traduction aujourd'hui de ce qu'est le pastoralisme moderne. Voilà, donc ça c'est... Il y aura deux visites, je vous invite à regarder le programme pour avoir plus de détails. On aura aussi une rencontre de bergers en formation et de bergers plus expérimentés. Donc l'idée, c'était de mettre en avant les nouveaux profils de bergers aujourd'hui. Qui sont-ils ? Voilà, on va voir qu'on a de plus en plus de femmes, de plus en plus de bergers non issus du milieu agricole qui sont soit en reconversion professionnelle, soit... voilà, on va voir tous ces profils différents. Et Et on aura en face donc des éleveurs bergers qui ont gardé pendant 40 ans, qui ont fait une carrière de berger et qui vont pouvoir peut-être donner des conseils ou des pistes pour ces jeunes bergers qui débutent dans le métier.
Voir susciter des vocations.
Voir susciter des vocations, alors ça c'est la cerise sur le gâteau pour nous. Hein. Mais bon, on ne se fait pas trop de soucis en fait. Hein. Le métier de berger connaît un regain d'intérêt. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui, comme on l'a déjà dit, hein, qui passionne les gens. Et après, entre l'image qu'on se fait et la réalité du métier, il y a parfois un fossé. Et c'est aussi là-dedans qu'on a notre rôle à jouer. Quoi. Voilà. On a la chance d'accueillir la Maison de la Transhumance, la Maison du Berger, les éditions Carder pour des conférences sur le projet de la route des drails ancestrales à un itinéraire agritouristique contemporain. Voilà, c'est Patrick Fabre qui est fidèle à la fête de la Transhumance, qui chaque année nous fait le plaisir de s'impliquer à nos côtés. On a une exposition, l'Alpage au pluriel, qui est déjà en place au théâtre. Au théâtre de Die qu'on peut voir et qui sera présenté le samedi matin par les auteurs qui sont Guillaume Lebaudy et Bruno Msika. Voilà, on a des tas de choses, on a deux films sur le métier de berger version féminin, au féminin, donc l'étoile des bergères qui sera projetée au théâtre aussi le samedi soir. On aura un film qui s'appelle Alexandre, fils de berger, qui a été tourné en Savoie par les Lapiers, donc des réalisateurs qui ont fait plusieurs films sur le thème du pastoralisme et qui vont venir présenter leurs films aux côtés de l'ADEME. Voilà, donc c'est vraiment là un film qui montre toute la transmission qu'il peut y avoir entre un éleveur berger qui transmet le savoir à son fils, quoi. Voilà. Voilà, des tas de choses sur le pastoralisme et venez nombreux.
Voilà, je voulais venir par rapport à la transmission d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, il y a la technologie qui s'invite aussi dans cet élevage, avec les puces, qui a été aussi décriée il y a quelques années. Est-ce que ça rentre dans les mœurs? Comment dire
Les boucles électroniques.
Est-ce que ça casse le mythe du berger
Je pense, maintenant, c'est vrai que les boucles électroniques, ça fait 5 ans que c'est obligatoire et je pense que les éleveurs se sont bien adaptés à ça. Enfin, je sais pas, Marie, ce que t'en penses, mais j'ai pas l'impression que ça casse beaucoup, beaucoup plus le bide. Maintenant, c'est rentré dans la normalité, me semble.
Moi, je ne saurais pas te parler de ça. Je veux dire, ça, c'est une question d'exploitation c'est une problématique liée aux fermes. Et nous, quand on parle de pastoralisme, on parle pas trop de ça. Et enfin, voilà, c'est pas un sujet sur lequel on est amené à travailler. Donc, j'ai aucun avis là-dessus.
Bah, très bien.
Par contre, excuse-moi, je voulais juste rajouter que le mardi 23 juin, il y a une transhumance à pied. De la vallée de Quin au Vercors, il reste des places. L'idée, c'est de suivre un troupeau de 200 brebis qui montent à pied jusqu'à Fondurle et de partager un moment avec les éleveurs et les bergers. Donc n'hésitez pas, il y a encore des places. On n'a pas fait trop de promotion parce que souvent, on se retrouve à plus de demandes que de possibilités. Et voilà, on a encore entre 5 et 10 places, donc il ne faut pas hésiter à appeler à l'ADEME ou sur mon portable.
Donne pas ton portable en ligne. Sinon, vous pouvez aussi appeler à l'Office de tourisme, on vous donnera le numéro.
Et Stéphanie Dupraz, oui. Alors par rapport à l'Office de tourisme, quelle est la fonction de l'Office de tourisme dans cette transhumance, à part le logement du touriste? Mais vous exercez aussi d'autres... Montage.
On a un rôle de support dans le comité technique, on a un rôle essentiellement de transmission d'informations, évidemment au travers des contacts qu'on a au quotidien avec la clientèle et aussi au travers de nos réseaux d'offices de tourisme au niveau départemental et régional. Notre rôle, il est essentiellement là. Je pense qu'on peut aussi amener, enfin, Harold me contredira ou pas, dans le comité technique, un aspect... c'est vrai que Marie et Nathalie sont très agricoles, très alpages, etc. Nous, on a plus un apport vision de la clientèle. Je vous disais tout à l'heure que la clientèle est très friande de contenu culturel, intellectuel, etc. autour de la fête. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas... il ne faut pas dénigrer le côté festif et je pense qu'on est aussi là pour réguler un petit peu le pourcentage de conférences, de cinéma, de choses sérieuses et de choses un petit peu moins sérieuses, un peu festives.
Je ne contredis pas.
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette collaboration entre tous ces services et ces grands acteurs. Enfin, finalement, nous, nous représentons des structures qui sont l'économie du territoire d'Ivoire. Et c'est très intéressant de travailler parce qu'on a chacun des points de vue différents, on a chacun des approches différentes, des sensibilités différentes. Et finalement, on arrive à avoir, à monter un projet qui, moi, me paraît depuis 3 ans très, très construit, très complet. On a que des retours positifs de la clientèle sur cette fête. L'équilibre entre le côté festif, le côté culturel, le côté d'apprentissage est très bien tenu. On s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Voilà, on a réussi à travailler, à faire un produit. Je vous parle économique ou touristique, un produit festif qui se tient et qui correspond à la demande de la clientèle. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir les discussions qu'on peut avoir autour de la table quand on fait des réunions. On n'est pas toujours d'accord et finalement, on arrive à quelque chose de construit et de satisfaisant.
Et la fête de la transhumance, au-delà du Diwa, comment se fait-elle connaître médiatiquement et pour intéresser justement les touristes à venir ici ?
Alors, la fête de la transhumance, c'est une fête qui se connaît au niveau Rhône-Alpes. La clientèle de la fête de la transhumance, c'est essentiellement des Rhône-Alpins. Voilà, c'est au travers des réseaux que nous, on peut mettre en place, que Harold aussi peut mettre en place. Même Marie, on a chacun nos réseaux. En plus, voilà, on a chacun le réseau agricole, le réseau culturel, le réseau touristique. Et ça se fait connaître à travers ces réseaux-là. On commence à avoir, enfin la fête, voilà, elle a 25 ans, elle a une petite notoriété intéressante au niveau Rhône-Alpes. Et il y a quelques années, on avait un petit peu une baisse de fréquentation. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, on s'aperçoit que le contenu de la fête fait que les gens reviennent à la fête et ne se limitent plus à juste voir passer le troupeau comme ça a été pendant un temps et à partir.
Oui, j'avais connu l'époque où on faisait passer les moutons le matin tôt.
Oui.
Et là, depuis 2 ans, c'est le soir.
4 ans, je crois. Ça fait 4 ans.
Au moins 3, ça veut dire.
Au moins 3, voire 4. Oui.
Bon, j'ai peut-être pas assisté à tous les passages. Hein, c'est pour
non,
ça.
Mais c'est vrai que voilà, le troupeau passait le matin à 8h, 8h30. Et à 9h, les commerces s'ouvraient et plus rien ne se passait. Ça a été aussi une demande, on va pas revenir sur l'histoire, ça a été aussi une demande des élus de l'époque de faire en sorte que cette fête ne soit pas juste le passage d'un troupeau, mais bien quelque chose de construit qui permette à de la clientèle de rester sur la journée, de consommer, etc., etc. Il y a tous ces volets-là dans la fête, il y a le volet pastoral, il y a le volet d'apprentissage, il y a le volet d'information à la clientèle, et il y a bien sûr ce volet économique qui est aussi d'importance.
Et bien sûr, les élus vous aident beaucoup à monter ce festival.
Disons qu'ils nous soutiennent financièrement. Après, la ville de Die fait partie du comité technique et donc effectivement est impliquée au même titre que chacun d'entre nous ici pour réfléchir au contenu et à la forme de la fête. Mais évidemment, ce qui est important dans ce fait, c'est qu'au-delà du comité technique, et c'est ça moi qui m'intéresse en tant qu'acteur du territoire, c'est aussi cette capacité à fédérer au-delà de nous cinq, voilà, avec l'implication d'un nombre considérable de partenaires. Évidemment, du côté pastoral, on ne peut pas ne pas parler du groupement pastoral de Prépéré, dont son président Francis Soldat est un de nos interlocuteurs réguliers, puisque c'est par ce groupement pastoral qu'on a la possibilité d'avoir effectivement un troupeau de 2200 en tête à peu près, c'est ça ?
1800 et quelques.
Ah, 1800, d'accord. Qui traverse la ville, donc voilà. Après, comme tous les projets qui soient d'événementiel, on va dire, quelle que soit leur nature, on est sur un montage financier de plus en plus complexe qui est assez à l'image du millefeuille administratif français, avec des financements croisés, comme on les appelle, qui implique aussi bien les communes de l'intercommunalité au niveau du Vercors, qui implique des plans pastoraux territoriaux, donc de l'argent de la région pour l'aspect financement pastoral, de l'argent européen via le FEADER, de l'argent toujours de la région sur la, via le, ici le CDDRA, donc un programme de développement local pour le volet touristique et festif, des sociétés civiles comme la SPIDAM qui nous accompagne sur l'aspect de la programmation de spectacles, etc. Donc vraiment une grande diversité de sources de financement qui permettent aussi de faire un festival et un événement professionnel. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est que effectivement, toutes les structures qui sont impliquées dans l'événement sont pour la majorité des structures professionnelles avec des réalités professionnelles et que donc elles ont besoin d'être financées pour pouvoir fonctionner et assurer la mise en œuvre professionnelle de l'événement. Et néanmoins, ce qui est plutôt chouette et que je trouve qu'on réussit tous ensemble plutôt pas mal, c'est que à partir de ce noyau professionnel, il y a aussi des structures extrêmement importantes, notamment comme la commune libre de Saint-Marcel, qui est une structure plutôt de bénévoles, ou encore cette année d'IWA Jumelage, par exemple pour la collaboration qu'on a dans le cadre de l'accueil de la banda de la Chita de Varallo, qui font que des associations ou des structures professionnelles et des associations dites non professionnelles parce que composées exclusivement d'énergie bénévole, qui sont essentielles, eh bien, peuvent travailler ensemble, portés par l'idée d'un projet commun qui les fédère et fait que chacun va donner de l'énergie de là où il est, avec la spécificité de ces réalités qui ne sont évidemment pas les mêmes quand on est une structure professionnelle comme l'OT, comme l'ADEME ou la FDO, ou le Festival Souest-Tête de Die, et des structures qui sont essentiellement bénévoles. Mais tout ça fonctionne ensemble et je trouve que dans la relation qu'on a avec nos différents interlocuteurs élus, quelle que soit leur couleur politique ou quel que soit leur comment dirais-je, leur niveau d'intervention, enfin en termes de territorialité ou de l'État, il y a un attachement très fort à cet événement et une volonté qu'il continue à grandir, à se développer et à servir et des intérêts des éleveurs, et des intérêts du pastoralisme, et au-delà des intérêts du territoire.
Merci. Et Stéphanie, vous vouliez rajouter autre chose, peut-être ?
Non, je suis complètement d'accord avec Harold. On a fait, c'est pas une belle mayonnaise, c'est un beau gâteau. Il y a beaucoup d'ingrédients différents, et finalement, on fait un beau gâteau, et on a même une petite cerise dessus.
Eh bien, je crois que nous allons clore cette interview, parce que l'heure passe. Et donc, Nathalie, Marie, Stéphanie et Harold, merci d'être passés au studio de RDIWA pour nous préparer à cette 25e fête de la transhumance. Au revoir.
Merci. Merci. Et à samedi, merci. Alors.
1 Terre View.
Okay, the bird.